Georges Fenech, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous avait reçu il y a 2 ans pour évoquer l'ensauvagement de la France, votre titre et votre regard sur l'évolution de la société française. On vous connaît bien aussi comme chroniqueur sur CNews actuellement. On vous connaît aussi pour avoir exercé dans la justice comme juge, et le mot vous y tenez, d'ailleurs on le retrouve très souvent dans le livre que nous allons évoquer maintenant. Juge, vous avez été sur les affaires lyonnaises, le juge Renault, la scientologie. On vous connaît comme député républicain et comme président à une époque de la Miviludes, c'est-à-dire que vous avez été un peu spécialiste, on peut dire, des questions des dérives sectaires. Vous avez aussi été, allez, je le dis avec sourire, accessoirement orateur national chargé de la justice pour la campagne des primaires de Nicolas Sarkozy en 2016. Ça a été très bref et ça ne va surtout pas amener de questions d'actualité. On est là pour parler d'Hermine. Vous avez aussi présidé la commission d'enquête sur les attentats de Paris de 2015. Voilà, pour quelques repères importants. Seulement là, ce n'est pas le juge, ce n'est pas le politique que l'on croise dans Hermine, mais un homme qui se met à nu pour nous confier son vécu, ses émotions, ses douleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'élan d'écrire Hermine ? Était-ce un besoin de témoignage, un besoin d'hommage, ou l'envie de livrer tout simplement une histoire que vous n'avez pas encore osé raconter publiquement ?
Mais vous venez de répondre à la question vous-même. C'est un peu tout ça. En réalité, c'est une interrogation qu'on a à certains moments de sa vie, comme tout le monde, comme nous tous, sur des questions existentielles, sur les questions fondamentales, sur la vie, sur la mort, sur la rupture, sur l'espoir, sur la renaissance. Donc c'est toutes ces questions que j'ai décidé d'aborder avec le plus de franchise possible, même si effectivement le lecteur habituel en ce qui me concerne ne m'attendait pas du tout même sur ce registre, hein, puisque j'ai publié exclusivement des essais quasiment et qui touchent à mes domaines de compétences, hein, que vous avez rappelés. Et là, j'ai ressenti le besoin d'abord de rendre hommage à une femme exceptionnelle que beaucoup ont connue et aimée, qui était Hermine de Clermont-Tonnerre, la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, comme on l'appelait.
Et vous jouez beaucoup sur le mot de princesse, qui est aussi une part de rêve d'extraordinaire pour vous.
Ah mais moi, j'ai vécu un rêve. Avec elle, j'avais l'impression de vivre un conte de fées.
Et un rêve, on va le dire, très court.
Très court,
malheureusement. Tout le fait qu'il a dû être très fort.
Très fort, très intense.
On va y venir.
Dans une période, en plus, nous avions perdu notre liberté.
Plein Covid.
En plein Covid, en plein confinement. Moi, j'étais à Montmartre. Elle n'était pas loin. Donc, on enfreignait toutes les règles pour se voir.
J'ai vu ça, monsieur le juge.
Ah ouais. Mais c'est elle qui m'entraînait. Hein. Mais ce n'était pas possible de lui résister. Donc, on évitait les forces de police et on allait se promener dans ces jardins secrets de Montmartre.
Et c'est elle qui vient vers vous ?
Complètement.
À la maison du caviar ?
Tout à fait.
Un du cigare ? Enfin, on est dans l'interdit pratiquement tout le temps, là.
Elle a toujours été dans la transgression, dans la provocation, dans l'impertinence. Elle n'avait pas de limite, en quelque sorte. Et donc, elle était merveilleuse. Voilà. J'ai voulu lui rendre hommage, en même temps pour dire à tous ceux qui l'ont aimée comment elle a vécu ces derniers temps de sa vie, et que si elle est morte brutalement, si elle est partie tragiquement, je crois pouvoir dire qu'elle est partie heureuse. Et c'est ce que j'ai voulu dire.
Et elle a eu ce grave accident, cet accident de moto, ouais, le premier jour du déconfinement.
Oui, qui n'aurait jamais dû se produire. Parce que pour moi, je l'ai dit, ce n'était pas un accident en fait. Nous étions avec des amis qui avaient tous des motos. Et on avait privatisé une auberge dans la vallée de la Chevreuse pour fêter le déconfinement. Et on a passé une journée merveilleuse. Il y avait des guitaristes, il y avait le guitariste de Carla Bruni, je me souviens. Donc c'était la joie, on allait enfin pouvoir vivre. Et je monte dans ma voiture, mais c'était le seul non-motard. Et j'ouvre la portière pour l'attendre et la ramener chez elle. Et je la vois pas revenir. Donc je redescends, ouais. je vais sur le parking, et là je la vois, mais in extremis, enfourcher une moto. Parce que ça a été plus fort qu'elle. Elle a beaucoup fait de moto dans sa plus grande jeunesse, je dirais. Elle faisait le rallye des princesses en Harley Davidson, vous voyez. Et elle devait faire juste un tour, quoi, le tour de la place, et revenir, l'essayer. Vous voyez, entendre le bruit du moteur. On ne l'a jamais revue.
Et l'accident a lieu donc début juin, et le décès, en fait, c'est début juillet.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois ?
Ben, il se passe...
Pour vous ? Comment vous survivez cette période ?
Moi, j'ai compris immédiatement que c'était la fin, quoi. Alors, les amis très proches voulaient toujours espérer, mais on l'espère toujours. Et donc, il y a eu un mois de coma profond, très profond, sans aucun signe. C'était une mort cérébrale, quoi. Et il a fallu en plus prendre une décision lourde, c'est-à-dire d'arrêter l'acharnement thérapeutique, quoi. Et donc ça aussi c'est une question sur vous voyez, on est en train de voter actuellement à l'Assemblée la fin de vie, et c'est une question qui m'a frappé de plein fouet à ce moment-là aussi. Et donc au bout d'un mois, on a décidé d'arrêter et de la laisser partir tranquillement.
Alors votre roman, votre livre, parce que c'est un roman, c'est un Vincent Ferrugia,
c'est une auto-fiction.
C'est vous, quoi, on le sait.
Oui. Ah,
même si vous avez donné un autre nom. Ça, c'est plutôt la deuxième partie du roman. Et la première partie du roman, en fait, vous en profitez pour parler de votre jeunesse et de vos racines. Alors, vos racines maltaises, italiennes, tunisiennes. D'ailleurs, ça m'a fait penser avec le Dien Cardinal, avec la goulette, tout ça.
Juste que ma grand-mère a bien connu, oui.
Eh ben voilà.
C'était des Italiennes de Tunis.
Eh ben, tout à fait. Mmh. Et alors, donc, vous êtes un garçon qui est né du côté de Sousse, et vous avez côtoyé les Bédouins, et vous en parlez.
Bien sûr.
Alors expliquez-nous un petit parlez-nous un petit peu de cette enfance et puis de ce déchirement de 63 où vous quittez le port de la Goulette.
Ouais. Oui, parce que en fait, le bandeau de ce livre qui n'est pas là, le bandeau c'est tout ce
Il est dedans.
Il est dedans.
À la dernière page.
Tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire.
C'est ça.
Parce que voilà, donc j'ai ressenti le besoin de lui parler, de lui raconter mon enfance. Voilà. Est-ce qu'elle l'entendra? Et donc, je raconte cette période de ma naissance, à l'orée du désert, ce que j'ai trouvé assez romanesque de mettre en perspective la condition de ma naissance au milieu des Bédouins, et elle, issue d'une des plus grandes familles françaises, qui ont fait des papes, qui ont fait des rois, qui ont fait des maréchaux.
La famille de Clermont-Tonnerre.
J'ai trouvé ça romanesque, si vous voulez.
Et vous croisez même des racines de Maltaise à un moment à 4 ou 5 siècles en retard.
Oui, l'un de ses aïeux a été grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à La Valette. Et donc, je raconte effectivement ce premier arrachement que j'ai connu très jeune. J'avais 8 ans, en 1963, où du jour au lendemain, nous avons quitté notre terre, notre maison, nos amis, nos tombes de nos ancêtres. Et il a fallu partir. Mon père est rentré dans la classe. Il m'a dit « Embrasse ta maîtresse », je sais pas ce qui se passait. Et puis dehors, il y avait un taxi qui nous attendait, directement direction le port de la Goulette. Et l'arrivée, la découverte de Marseille, sous la neige, c'était le mois le plus froid du siècle.
Une anecdote qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est lorsque vous êtes enfant, vous êtes le premier de votre classe, je crois que c'est en français, il y a des remises de prix, et là, il se passe quelque chose.
Oui, c'est un épisode douloureux de mon enfance, mon adolescence, parce que vous savez, au fond, comme on disait, les pieds noirs à l'époque.
D'ailleurs, vous expliquez que les pieds noirs, c'est à cause des bottes des militaires
en Algérie.
Une question que plus personne ne se pose.
Oui,
voilà pourquoi on parle de pieds noirs.
Et donc, on n'a pas toujours été accueillis de grand cœur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces Français, d'où ils viennent? C'est des colons, ils ont un accent. Ils sont pas comme nous, quoi. On a été victime d'une forme, quand même, d'ostracisme, si vous voulez, hein. Alors que c'était notre mère patrie. Sinon, on est rentré chez nous, en fait, dans notre pays. Et effectivement, j'avais eu le premier prix de France. J'avais les meilleures notes en français. J'étais premier dans toutes les compositions. Et donc, le dernier jour du lycée, réunion dans la cour d'honneur avec les familles, en présence des familles, où on remettait les prix d'honneur. Les premiers prix, etc. Moi, j'étais très fier. Ma mère était là. Je me dis, je vais avoir le premier prix de français. Et puis quand j'ai entendu le proviseur annoncer le deuxième à ma place, j'ai cru que le monde s'effondrait. Heureusement, j'en ai pas parlé à ma mère. Et là, la professeure de français, c'est en classe de quatrième, elle m'a fait un petit signe, je l'ai suivi, elle m'a amené à la bibliothèque, elle m'a dit, choisis ce que tu veux. Et j'ai choisi un très beau livre bleu sur les découvertes du navigateur Magellan. Vous voyez, je m'en souviens toujours. Et donc, c'est la première fois que j'ai compris ce que pouvait être une injustice. Qui a peut-être guidé aussi ma carrière plus tard.
Ça allait être ma question, effectivement. Oui, ça, c'est ce genre de choses qui vous a marqué, qui vous a amené vers le métier de juge, en fait. Ouais. Dernière chose, parce que on est assez pris par finalement le temps, quelque chose qui marque beaucoup votre livre, c'est la place de ce que je pourrais appeler la superstition ou l'importance de la prédiction par des devins.
Bah oui, je veux dire, ça fait partie de nos croyances, hein. Elles sont tout à fait respectables. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, qui était italienne, et donc elle est rentrée non pas en France, mais dans son pays.
À Florence.
En Italie, à Florence.
Où vous rêviez d'aller avec
où je rêvais d'aller avec elle, oui, c'était prévu. On avait prévu d'aller à Florence. Et ma grand-mère était voyante. Mais c'est une voyante de grande classe, attention. Elle recevait toute la haute bourgeoisie florentine chez elle. Et donc, j'étais baigné dans cette culture-là, si vous voulez, hein. Des voyants, voilà. Et donc, j'en parle beaucoup. Et j'invoque d'ailleurs la mémoire de ma grand-mère, que je vois, qui m'apparaît, qui me conseille.
Les vieilles femmes sont là.
Dans un rêve éveillé, si vous voulez.
Alors, si la princesse Hermine pouvait lire ce roman aujourd'hui, à votre avis, comment vous imaginez qu'elle réagirait?
J'ai vu une voyante. Il y a une voyante qui m'a abordé spontanément, que je ne connaissais pas, et qui m'a dit, Hermine me charge de vous dire qu'elle est très fière du livre que vous avez écrit sur elle.
Ça va nous servir de conclusion.
On va vous dire mieux.
Eh bien non. Merci à vous, Georges Fenech.
Merci.
Vous présentez ici Hermine, aux éditions donc de Guy Tridaniel. Ouais. Un roman plein d'émotions.
Merci.
Qui change effectivement de vos écrits, écrit. C'est votre deuxième roman. Il y en aura un autre de roman.
Oui. Oui, parce que c'est merveilleux de pouvoir toucher ses concitoyens, le grand public, avec ses propres sentiments, avec sa propre vie. Et quand on est écouté, c'est merveilleux, quoi.
Merci, Georges Fenech.